Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Priant Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et jouir sans cesse et divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous devrions aujourd'hui, si je veux, terminer le chapitre 22 de Saint Matthieu. Donc nous en sommes sur le polycopie à la page 16, lire au chapitre 22 de Saint Matthieu, verset 33. Notre Seigneur Jésus-Christ vient de parler de ce qui se passerait à la résurrection pour les personnes mariées. Donc n'oublions pas ce que j'ai déjà expliqué, que la mort détruit le lien du mariage, et donc des gens qui sont morts ne sont plus mariés. C'est-à-dire que si une personne deux personnes sont mariées, l'un des deux époux meurt, eh bien l'autre personne est libérée des liens du mariage. Donc voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église en haut de la page 16 sur le polycopier. Quelques remarques intéressantes des pères. On pourrait résumer ça par tel parent, tel fils, tel enfant. La plupart du temps, Dieu donne un bon fils à un bon prédicateur et un mauvais fils à un mauvais prédicateur. Cela est bien visible chez Abraham qui eut un fils croyant de la femme libre mais un fils sans foi de l'esclave. Et en règle générale, je dis bien, il y a des exceptions qui confirment la règle, l'éducation qu'on donne aux enfants est tellement importante que les enfants vont suivre, au moins en tant qu'adultes, vont suivre l'éducation qui leur a été donnée. Donc on descend en général d'un cran quand même, c'est-à-dire que si les parents sont des saints, les enfants sont des bons enfants, mais si les parents sont simplement bons, les enfants seront médiocres, et si les parents sont médiocres, les enfants seront mauvais. Mais parfois, disent les pères, un bon prédicateur aura des fils bons et mauvais, ce qui est bien signifiant Isaac qui, de la même femme libre, obtint un bon et un mauvais fils. D'autres fois, on verra de bons fils issus de bons et de mauvais prédicateurs, comme on peut le voir chez Jacob qui est le bon fils d'une femme libre et d'une esclave. Donc le problème, c'est que vous pouvez donner la meilleure éducation que vous pouvez à vos enfants, vous ne détruirez pas pour autant le libre arbitre de vos enfants. Ils gardent ce libre arbitre. Donc ne vous découragez pas si vous voyez qu'un de vos enfants ne suit pas malheureusement l'éducation que vous leur avez donnée. Il ne faut pas oublier que le libre arbitre demeure dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il est possible malheureusement pour un enfant qui a reçu une bonne éducation de tout envoyer promener, d'abandonner ce bon chemin. Mais il est aussi possible pour un jeune adulte qui a tout envoyé promener de revenir en arrière avec la grâce du bon Dieu. Et on voit ça relativement souvent, nous prêtres, surtout pour des mourants, où les gens d'un seul coup se rappellent un petit peu ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Il y a des petits détails dans l'éducation qui demeurent gravés dans l'âme, mais avec la grâce du bon Dieu, des retours sont possibles. Alors vous avez une note sur les Sadducéens, puisque au verset 23 du chapitre 22 de Saint Matthieu, on parle des Sadducéens. Les Sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus. Alors, voilà une note sur les Sadducéens. Donc, il y a deux erreurs chez eux, d'après les pères. Première erreur, l'ignorance des Écritures, qui enseigne pourtant clairement la résurrection des corps. Deuxièmement, l'ignorance et le manque de considération de la toute-puissance divine. Cela va les pousser à interpréter les Écritures qui traitent de la résurrection, comme si cela ne faisait référence qu'à une résurrection mystique du vice et de la vertu, du vice à la vertu. On trouve toujours le même problème, c'est-à-dire la tentation d'interpréter l'Écriture sainte selon son bon vouloir. Et n'oublions pas que l'Église seule a les clés d'interprétation de l'Écriture sainte, pas nous, ni personne en particulier. Dieu a l'interprétation de l'Écriture sainte et la donne à son Église. Et donc il faut avoir suffisamment d'humilité pour se cacher littéralement derrière l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. Même si on la comprend pas, même si on n'est pas d'accord. Et comment l'Écriture sainte a-t-elle été interprétée pendant des siècles et des siècles? Je pense que c'est très important. Une des erreurs du modernisme d'avant Vatican II, puisque c'était condamné en 1907 par Saint Pie X dans Pascendi, une des erreurs, c'est justement l'interprétation, le mépris pour l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. Et on peut dire que pour les prêtres, même dans la tradition, un très mauvais signe, c'est justement ce mépris pour l'interprétation traditionnelle. J'ai connu au séminaire des Cônes, et dans les milieux de la tradition, quand j'étais jeune séminariste, des séminaristes qui étaient comme ça, qui avaient beaucoup de qualités, des qualités de cœur, des qualités d'intelligence, des qualités de prière aussi, mais qui méprisaient l'interprétation traditionnelle de l'Église. Ils voulaient toujours suivre les idées nouvelles en matière d'interprétation de l'Écriture sainte, et était très influencé par l'exégèse allemande de l'école de Tübingen, plus ou moins directement, plus ou moins profondément. Mais ça donnait des catastrophes, parce que lorsqu'on se sépare de l'interprétation traditionnelle concernant l'Écriture sainte de l'Église catholique, eh bien, cette séparation va entraîner d'autres séparations. On commence par se détacher de l'interprétation de l'Écriture sainte, traditionnelle de l'Écriture sainte, et puis ensuite on va se détacher au niveau du catéchisme, au niveau du dogme, au niveau de la morale. Tout se suit. Donc attention à avoir suffisamment d'humilité pour justement ne pas chercher à avoir une interprétation personnelle, mais se dire tout simplement comment est-ce que les pères de l'Église, eux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte, comment ont-ils interprété l'Écriture sainte pendant des siècles et des siècles? C'est une chose qu'on m'a parfois reproché, on m'a dit, mais vous suivez beaucoup trop l'interprétation mystique, spirituelle de l'Écriture sainte. Et je réponds toujours par une question, est-ce que ma façon d'expliquer l'Écriture sainte correspond, oui ou non, à la façon qu'avaient les pères de l'Église d'expliquer l'Écriture sainte, oui ou non? Sinon, à ce moment j'ai tort. Si oui, à ce moment je suis protégé par eux. Mais il faut bien reconnaître que justement les pères de l'Église expliquaient ainsi l'Écriture sainte. C'est pour ça que j'ai pas d'interprétation personnelle sur l'Écriture sainte. Je me suffis avec le fait que je suis ce que l'Église a toujours enseigné par l'Écriture sainte. Surtout Saint Jérôme et les grands exégètes des 3e et 4e siècles. Alors d'autres notes en page 16 du père de l'Église encore. Les femmes qui sont bonnes et modestes, parce que notre Seigneur nous parlait du mariage, les femmes qui sont bonnes et modestes ne choisissent pas elles-mêmes leur mari, mais leurs maris leur sont donnés par leurs parents. Bon, bien sûr, il faut comprendre et adapter cette phrase au monde moderne. Cependant, l'idée reste bonne. Moi, je constate simplement une chose. Lorsque, auparavant, les parents qui aimaient leurs enfants choisissaient pour eux littéralement leur épouse, eh bien, en général, ces mariages tenaient. Aujourd'hui, chacun veut en faire qu'à sa tête. Les enfants ne veulent plus suivre les conseils des parents, ne veulent même plus demander conseil concernant les mariages. Beaucoup de mariages ne tiennent pas justement à cause de ça. Bon, il est évident qu'il faut du bon sens et que lorsque des parents se réunissent, je pense que c'est tout à fait possible de faire encore des choses comme ça, même en 2019, des parents qui ont un enfant qui est en âge d'être marié, qui est suffisamment mûr pour se marier, qui a un travail stable, qui est suffisamment mûr psychologiquement pour se penser au mariage et fonder une famille. Bon, ils veulent aider leur enfant à trouver quelqu'un qui est vraiment fait pour eux, une jeune fille qui est vraiment fait pour lui, par exemple. Eh bien, ils ont le droit d'essayer de discuter avec d'autres parents qui ont une jeune fille dont les caractéristiques spirituelles, psychologiques et même physiques correspondent au goût de l'enfant et à la conviction des parents et des enfants, et proposer en quelque sorte, à s'arranger un peu, proposer un mariage de ce genre. Mais il est évident que lorsque des parents aident leurs enfants à choisir un époux, et je pense que c'est un leur devoir d'État, il est évident qu'il faut l'accord de l'enfant. Le jeune homme ou la jeune fille doivent donner leur accord, à tel point que au cours de l'enquête l'enquête canonique qui est faite par le prêtre avant le mariage, il se doit, c'est obligatoire par le code de droit canonique, de voir en privé, sans aucun témoin, et la jeune fille d'un côté, puis après le jeune homme d'un côté, de l'autre côté, pour vérifier le caractère libre de l'engagement. Est-ce que vous voulez vraiment épouser telle personne ? Et si une jeune fille, par exemple, me disait dans l'enquête, au cours de l'enquête, j'épouse cette personne parce que mes parents m'obligent à l'épouser, je respecte mes parents, mais c'est pas du tout la personne que je prendrais pour moi, et si j'étais libre de faire ce que je voulais, je n'épouserais pas cette personne, je l'ai fait exclusivement pour pure obéissance à mes parents, personnellement, je ne ferais pas le mariage. C'est beaucoup trop dangereux. Donc il faut garder cette liberté, mais en même temps, n'oublions pas que les jeunes qui m'écoutent, avant de hurler et pousser des bondes sauvages en m'écoutant sur Internet, réalisent que les parents ont l'expérience du mariage, que les jeunes n'ont pas. Et les parents aiment profondément leurs enfants, et donc ne veulent que le meilleur pour les enfants, mais ils veulent le meilleur pour l'âme de leurs enfants, pas forcément pour le cœur. Et j'ai remarqué plusieurs fois que lorsque les parents s'en mêlent avec intelligence pour essayer de d'aider les enfants à bien choisir, eh bien les choses en général se passent bien. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié, ça m'est arrivé assez rarement, mais ça m'est arrivé quelquefois en tant que prêtre, d'avoir des jeunes paroissiens, des gens que je connais parfois depuis plusieurs années, qui encouragent de venir voir le prêtre au moment où ils pensent au mariage, commencent à penser à telle personne en particulier, ils savent que le prêtre connaît bien cette personne auquel ils pensent, et qui encouragent de venir voir le prêtre en disant « Monsieur l'abbé, je souhaiterais me marier, d'abord est-ce que vous pensez que je suis suffisamment mûr pour me marier ?» Et ensuite, voilà, je pense me marier avec telle personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez la personne en question, vous me connaissez aussi. Est-ce que vous pensez que les choses pourraient marcher entre nous deux? Et ça m'est arrivé quelquefois de donner des conseils positifs en disant, écoutez, je vous déconseille fortement d'épouser telle personne pour telle et telle raison. Au contraire, oui, je pense qu'effectivement, autant que je puisse le voir, ça pourrait coller. Je ne m'engage pas plus. Et quand je vais pas leur dire, je suis sûr que ça va marcher, parce que ça pourrait ne pas marcher. Mais les parents doivent aider les enfants dans ce domaine. Des bienheureux au ciel, disent les pères, après la résurrection, seront comme des anges, non par nature, mais par la pureté dans la vie spirituelle, car ils vivront pour une nourriture spirituelle et non temporelle, par incorruptibilité et immortalité, dont le bonheur et la gloire pour toute l'éternité comme les anges. J'ai expliqué qu'une fois au ciel, les élus du ciel ne sont plus mariés, le sacrement de mariage disparaissant après la mort. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre demeure même après la mort. Donc le caractère du sacrement de baptême, du sacrement de la confirmation, du sacrement de l'ordre, demeure sur une âme pour toute éternité, ce qui n'est pas le cas pour le mariage, parce qu'il n'y a pas de caractère donné par le sacrement de mariage. Donc, petite note des pères, ici, page 16, on se marie pour les enfants sont pour la succession pour la mort. S'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mariage. Donc, rappelez-vous, encore une fois, une chose qu'il faut rappeler maintenant envers et contre tout, surtout actuellement, c'est que le but premier du mariage, la fin première du mariage, n'est pas l'amour mutuel entre les deux époux, comme l'enseigne l'Église de Vatican II et comme pensent beaucoup de gens aujourd'hui, mais au contraire, la procréation, l'éducation des enfants. Donc on se marie d'abord pour ça. Si les gens voulaient se marier sans vouloir d'enfants, le mariage serait invalide. Donc il faut avoir envie d'avoir des enfants, et il faut pas non plus dire on aura trois enfants, on aura quatre enfants. Non, c'est pas vous, je dirais strictement parlant, qui décidez ça. Il faut pouvoir se marier en disant, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Je vous signe un chèque en blanc concernant le nombre d'enfants que vous voulez que j'ai avec mon épouse. Bon, je veux l'unité, l'indissolubilité du mariage, l'acceptation des enfants. Et l'important, c'est de se sauver en ayant le nombre d'enfants que le bon Dieu veut que vous ayez. C'est pour ça que le bon Dieu, souvent, manifeste sa volonté par les circonstances, ce qu'on appelle la volonté de bon plaisir du bon Dieu. C'est évident que si une personne a une situation, par exemple une maman a une situation de santé catastrophique, qu'il est vraiment pas raisonnable qu'elle ait pour elle qu'elle ait actuellement un autre enfant, ou qu'un papa a a perdu son travail, par exemple, se retrouve sans ressources pendant un certain temps et qu'il n'est pas raisonnable pour eux d'avoir un enfant, eh bien, ces époux ont le droit, selon le texte de Pie XII du mois d'octobre 1951, ont le droit d'utiliser une méthode naturelle de contrôle des naissances tant qu'ils sont dans cette situation qui est indépendante de leur volonté propre. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de voir un petit peu les choses, de se rafraîchir un peu la mémoire sur ce domaine-là, je vous conseille d'aller rechercher la lettre et la conférence qui est sur le site internet dont je m'occupe, d'Anne-Marie, concernant justement la mentalité contraceptive. Mentalité contraceptive, conférence dans laquelle j'explique les deux textes essentiels sur le mariage chrétien du magistère de l'Église, à savoir le texte dont je viens de vous parler du pape Pie XII de 1951, octobre 51, et la grande encyclique du pape Pie XI, Casti Connubii. Autre texte des pères de l'Église, au milieu de la page 16, texte de Saint Cyrille de Jérusalem, la virginité, la conversation des anges et la pureté de la nature incorporelle. N'oublions pas que l'Église a toujours enseigné que la vie contemplative est supérieure à la vie active, que la vie consacrée, la virginité consacrée, est supérieure en soi à l'état commun du mariage. C'est pour ça qu'il y a une vocation à la virginité consacrée, alors qu'il n'y a pas de vocation au mariage. La vocation au mariage n'existe pas, strictement parlant. C'est pas une vocation au mariage, c'est la voie commune. C'est-à-dire que si quelqu'un comprend devant Dieu qu'il n'a pas de vocation particulière pour l'état ecclésiastique ou l'état religieux, à ce moment-là, il peut se diriger licitement et moralement vers la voie commune. La voie commune, c'est le mariage. Autre texte de Saint Basile cette fois-ci, la virginité, la semence de l'incorruptibilité future, les vierges l'anticipent dès à présent et commencent ainsi déjà leur future ressemblance avec les anges du ciel. Elles désirent être récompensées avec la perfection ici-bas par un combat constant, la victoire sur la chair dans le monde. Donc c'est sûr que c'est par la vertu de pureté surtout qu'on imite le plus les anges. N'oublions pas que l'imitation de l'homme par rapport à Dieu, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette imitation se fait par l'âme, pas par le corps, puisque Dieu est un pur esprit. Il ne peut pas être créé à l'image et à la ressemblance du bon Dieu par notre corps, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu par notre âme. Donc la chasteté nous fait ressembler non seulement aux anges, mais à Dieu lui-même. Que la virginité est grande et glorieuse, elle qui fait qu'un homme corruptible puisse recevoir en lui de Dieu même une ressemblance avec Dieu comme un clair miroir avec ses faveurs coulant sur lui comme le plus doux rayon de lumière. Et un texte également de Saint Bernard. Y a-t-il chose plus belle que la chasteté qui rend pur ce qui a été conçu impur, qui fait d'un ennemi un serviteur, d'un homme un ange? Un homme chaste diffère d'un ange par son bonheur et non par sa vertu, bien que la chasteté de l'un donne plus de bonheur, celle de l'autre est plus forte. C'est donc certain, d'après les pères, que la vertu de pureté est la vertu qui nous fait le plus imiter Dieu, notre Créateur et Rédempteur. Passons au verset suivant, donc verset 34 à 40 du chapitre 22 de Saint Matthieu. Les pharisiens, ayant appris que Jésus avait réduit les Sadducéens en silence, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le tenter. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui dit, « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Mais le second lui est semblable, vous aimerez votre prochain comme vous-même. Et dans ces deux commandements sont enfermés la loi et les prophètes. » Donc c'est ce commandement de Dieu, qui correspond au premier commandement de la loi divine, évidemment le plus important de tous les commandements. N'oublions pas, j'ai déjà expliqué ça souvent dans la partie sur le catéchisme, que tous les commandements de Dieu ne sont pas au même niveau. C'est pour cela que Dieu a donné les commandements sur deux tables différentes. Première table, commandement 1, 2 et 3. Deuxième table, commandement 4 à 10. Et donc une faute contre les premiers commandements, la première table de la première table est plus grave qu'une faute contre les commandements de la deuxième table. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui parce que justement on a perdu ce sens de la grandeur et de la dignité de Dieu. On ne réalise pas, par exemple, que en soi, je dis bien en soi, de manquer à la messe le dimanche, c'est en soi plus grave, qui se pose au commandement de la première table, c'est plus grave, je dirais littéralement, même que tuer quelqu'un, parce qu'il se pose à la deuxième table, au commandement de la deuxième table. Pourquoi ? Parce qu'on a perdu la notion de la dignité de Dieu. Les anciens ont bien compris ça, parce que oui, ils savaient justement la grandeur extraordinaire de Dieu, en qui il n'y a pas l'ombre d'un changement, pas de vicissitude de changement, dans le texte de Saint Jacques. Donc celui qui maintenant demande quel est le plus grand commandement, n'observez pas même le petit. Personne ne peut chercher une plus haute justice s'il n'a rempli le degré inférieur. Aimer Dieu de tout son cœur signifie de n'avoir son cœur dirigé que par l'amour de Dieu et de n'aimer rien en dessous de lui. Aimer Dieu de tout son cœur signifie donc avoir son esprit centré sur la vérité, être ferme dans la foi, car l'amour du cœur et l'amour de l'âme sont différents. Donc la foi est vraiment ce qui soutient la vertu de charité. Rappelez-vous qu'on peut avoir la foi sans la charité, mais l'inverse n'est pas possible. On ne peut pas avoir la plus grande des vertus, à savoir la charité, sans avoir les vertus inférieures, dont la foi est inférieure à la vertu de charité, strictement parlant, la vertu de charité étant la reine des vertus théologales, comme la vertu de prudence est la reine des vertus cardinales. Donc vous aimerez le Seigneur votre Dieu tout votre cœur, toute votre âme et tout votre esprit, et vous aimerez votre prochain comme vous-même. En fait, c'est un seul et même commandement. Donc arriver à voir dans le prochain l'image de la réflexion de Dieu, ce qui n'est pas évident du tout. Donc il faut aimer le prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Donc on aime le prochain parce qu'on veut que le prochain se rapproche de Dieu. Donc si le prochain s'éloigne de Dieu dans sa façon de vivre, son comportement, eh bien il est évident que ce n'est pas à l'aimer que de laisser son prochain se vautrer dans le péché sans rien faire. Donc, si votre fils vit dans le concubinage le plus complet, c'est pas du tout une preuve d'amour que vous lui donnez d'accepter cette situation pécamineuse. Justement, si un père aime son fils, et si le fils vit malheureusement dans le crime du concubinage, bien les parents doivent tout faire pour le faire sortir de là, justement parce qu'ils aiment leur enfant. Et encore actuellement, on a bien du mal à comprendre ces choses-là, parce qu'on est complètement déformé par le libéralisme moderne qui prétend que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ben non, on n'est pas libre parce qu'il n'y a pas de liberté de conscience. Rappelez-vous que l'Église catholique a condamné la liberté de conscience comme une liberté de perdition et d'insanité. Voyons page 17 du Polycopié. Donc les pères parlent d'abord de l'amour du cœur. Et il explique que c'est un amour charnel qui nous permet d'aimer Dieu avec notre chair, chose que nous ne pouvons pas même faire sans nous détourner de l'amour des choses de ce monde. Cet amour du cœur est ressenti dans le cœur, c'est pour ça qu'on l'appelle l'amour du cœur. N'oublions pas que la première condition pour se mettre sur le chemin qui mène vers le bon Dieu, c'est d'arrêter d'aimer les choses de ce monde. Tant que j'aime les choses de ce monde, que je suis plus attaché aux choses de ce monde qu'aux choses du bon Dieu, je ne peux pas prétendre aimer le bon Dieu et le suivre. On ne peut pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ et le laisser prendre possession de notre âme sans vider notre âme de toutes les choses matérielles qui l'envahissent. Si mon âme est pleine de choses matérielles, comment voulez-vous que le bon Dieu puisse rentrer dans notre âme puisque notre âme est pleine? Il faut commencer d'abord par se vider des choses matérielles pour faire de la place au bon Dieu, qui à ce moment-là peut prendre non pas toute la place, parce que le bon Dieu sait que nous sommes corps et âme, et va nous laisser certains biens matériels, parce qu'on ne peut pas vivre sans un minimum de biens matériels. On est obligé de manger et de s'occuper de notre corps. Mais le bon Dieu, premier servi. Le deuxième amour, donc, c'est l'amour après l'amour du cœur, c'est l'amour de l'âme. N'est pas ressenti, mais perçu, disent les pères, parce qu'il consiste en un jugement de l'âme. Car celui qui croit que tous les biens sont en Dieu et qu'il ne peut en exister en dehors de lui, celui-là aime Dieu de toute son âme. Aimer Dieu ainsi de tout son esprit consiste à avoir toutes ses facultés ouvertes et occupées par lui. Celui-là seul aime Dieu de tout son cœur, qui sert Dieu avec son intelligence, dont la sagesse n'est employée que pour Dieu, dont les pensées ne travaillent qu'en lui, dont la mémoire ne garde que les choses qui sont bonnes. Voyons pas qu'il faut aimer Dieu, pas simplement de façon purement intellectuelle. Il faut aimer Dieu avec son intelligence, avec sa volonté, avec son cœur. Donc, puisque le bon Dieu m'a donné une intelligence, j'ai pas le droit, encore une fois, de faire ce que je veux de mon intelligence. Je dois soumettre cette intelligence au vrai, parce que l'objet de l'intelligence, c'est le vrai. Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux de mon cœur, d'aimer comme je veux, qui je veux et comme je veux. On n'est pas libre là-dessus. Contrairement à ce que beaucoup de jeunes pensent, vous n'êtes pas libre, nous ne sommes pas libres, personne n'est libre de faire ce qu'il veut dans ce domaine. Avant de choisir quelque chose, il faut avoir courage de demander au bon Dieu, mon Dieu, que voulez-vous que je fasse? La plupart des Juifs pensaient que le commandement principal de la loi concernait les sacrifices et les victimes offertes à Dieu selon la loi lévitique, car Dieu était proprement adoré au-dessus de tout par ses offrandes. Donc les Juifs de l'Ancien Testament étaient très attachés à ces sacrifices et victimes offertes au temple, mais ils n'avaient pas tous compris que ces victimes préfiguraient une autre victime avec un grand V, V majuscule, bien plus grande que ces victimes naturelles. Donc les animaux qui étaient offerts, les brebis, les boucs, les veaux, les taureaux qui étaient offerts par le grand prêtre sur l'esplanade du temple ou dans le temple, était le symbole du sacrifice rédempteur qui allait un jour venir, à savoir le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si Dieu, justement, au début, n'utilisait que des sacrifices d'animaux pour représenter le sien qui un jour viendrait, qui est infiniment plus grand. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut plus suivre les sacrifices de l'Ancien Testament, les sacrifices du peuple juif, parce que justement, notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé et par sa mort sur la croix a sublimé en quelque sorte tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Dernier verset du chapitre 22 de Saint Matthieu. Les pharisiens étant rassemblés, Jésus les interrogea en disant : Que vous semble du Christ ? De qui est-il fils ? Et lui répondirent : De David. Il leur dit : Comment donc David l'appelle-t-il en esprit son Seigneur ? En disant : Le Seigneur a dit à son Seigneur : Asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de vos ennemis l'escabeau de vos pieds. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils ? Personne ne pouvait lui répondre, et depuis ce jour, nul n'osa plus lui poser de questions. Donc on voit très bien que les disciples vont avoir du mal à comprendre ces choses-là. Saint-Pierre va le comprendre, à comprendre, à réaliser que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Mais les apôtres vont comprendre bien ces choses-là, vraiment de façon complète et totale, qu'au jour de la Pentecôte. Avant la Pentecôte, ils vont comprendre ces choses-là de façon imparfaite, incomplète, parce qu'ils voient trop encore dans l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, une autorité purement politique, purement physique. Ils oublient la partie spirituelle qui est cachée. Aussi, une note des pères, quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Asseyez-vous à ma droite, que ce que j'ai fait de vos ennemis l'escabeau de mes pieds ?» Donc, il rappelle un trait historique sur Sapor, roi des Perses, qui avait battu l'empereur Aurélien et qui l'utilisa comme un escabeau placé sous son pied pour monter sur son cheval. Alors, passons maintenant au chapitre 23. Donc, on avance lentement. Chapitre 23 de Saint Matthieu, versets 1 à 4. Jésus parla aux foules et à ses disciples en disant : Les scribes et les pharisiens sont assis sur la chaire de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et insupportables, ils les mettent sur les épaules des hommes, ils ne veulent pas les remuer du doigt. Donc ici, notre Seigneur Jésus-Christ se moque des pharisiens, des scribes, qui justement coupaient le champ 36 dans le sens de la longueur pour certaines règles matérielles que Dieu avait données au peuple juif, mais qui ne pratiquaient pas justement l'amour du bon Dieu à côté de ça. Tous les gestes extérieurs sont un moyen de s'approcher de Dieu. Le but, c'est l'amour du bon Dieu, n'oublions pas. Et cet amour du bon Dieu est manifesté extérieurement par des choses physiques, donc par des œuvres. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention à certaines œuvres qui nous permettent justement de manifester l'amour du bon Dieu. On dit qu'on peut juger parfois, c'est vrai, de la foi d'un enfant par la façon qu'il a de faire un signe de croix, par la façon dont il fait sa génuflexion à l'autel. Si vous voyez un enfant de 10 ans faire sa génuflexion n'importe comment, son signe de croix, comme un chasse-mouche, eh bien on peut se douter que cet enfant n'a pas encore compris devant qui il est. Parfois, on voit certaines personnes se comporter à la chapelle, on peut se demander, poser la question, en se demandant est-ce que vraiment ils réalisent devant qui ils sont. Quand vous entrez dans une église moderne, il y a un bout de pain dans le tabernacle, il n'y a rien du tout. Quand vous entrez dans l'église catholique, une église de la tradition catholique, ce n'est pas un bout de pain qui est devant vous au tabernacle, c'est le corps, le sang, l'âme et la divinité cachés sous les apparences extérieures du pain et du vin. Donc, attention donc à ce que nos œuvres manifestent notre foi. Le plus important, c'est la foi, ce n'est pas les œuvres. Mais les œuvres sont nécessaires pour manifester notre foi. La foi sans les œuvres, dit Saint Jacques, une foi morte. Les œuvres de la foi, quelles sont les œuvres de la foi? La première des œuvres de la foi, évidemment, c'est la vertu de charité. Voyons ce qu'en disent les pères, page 18. De même que l'or est mélangé aux impuretés, il doit en être séparé. Ainsi, ceux qui écoutent les prédicateurs doivent prendre la doctrine, mais laisser de côté la pratique, car la bonne doctrine vient parfois d'un homme mauvais. Comme les prêtres jugent préférable d'enseigner le mauvais dans l'intérêt du bien plutôt que de négliger le bien dans l'intérêt du mal, ainsi, laissons ceux qui sont sous leur autorité respecter ces mauvais prêtres dans l'intérêt du bien pour que le bien ne soit pas méprisé à cause du mauvais, car il vaut mieux laisser au mal ce qui ne lui est pas dû plutôt que de voler au bien ce qui lui appartient en justice. Donc, c'est un texte qui n'est pas très, très facile à interpréter et à comprendre. Mais ici, notre Seigneur Jésus-Christ vilipende l'hypocrisie de ceux qui agissent et qui disent mais qui n'agissent pas. Donc on ne juge pas les gens en fonction de ce qu'ils disent, mais en fonction de ce qu'ils font. On ne sera pas jugé le jour de notre jugement selon nos paroles, mais selon nos actions. Il y a certaines personnes, certains prêtres, ici c'est à cela que fait les gens le texte, certains prêtres qui prêchent bien, qui disent bien, qui parlent bien, qui ne vivent pas malheureusement selon leur façon de parler. Quiconque transgresse la loi mérite un blâme, mais encore plus celui qui a la responsabilité d'instruire les autres, parce qu'il est un transgresseur, parce qu'il doit faire avancer les autres, mais qu'il s'arrête lui-même, parce que étant élevé au rang de maître, son influence est plus corruptrice. C'est évident que plus on a de responsabilité dans l'Église du Christ, plus on sera jugé avec exigence. Et notre Seigneur Jésus-Christ jugera beaucoup plus sévèrement un prêtre qu'un laïc. Notre Seigneur Jésus-Christ jugera beaucoup plus sévèrement un prêtre qui a reçu une véritable formation catholique, un prêtre de l'Église de Vatican II qui n'a rien reçu du tout. De la même façon, un prêtre jugera beaucoup plus, Dieu jugera beaucoup plus sévèrement un catholique qui a reçu une véritable formation catholique qu'un catholique qui n'a rien reçu du tout. Un catholique de l'Église moderne qui n'a rien reçu du tout. C'est un détail, mais c'est pour cela que je dis souvent en matière politique, je sais bien que j'ai choqué certaines personnes en disant ça, mais c'est exactement ce que je pense, qu'il faut juger les gens aussi en fonction de ce qu'ils ont reçu, pas simplement en fonction de ce qu'ils donnent. Quand les gens me demandent, selon moi, quelle est la personne, et tous ceux qui briguent les suffrages des naïfs qui croient encore à la politique française en France, qui veulent perdre leur temps à voter, et qui me demandent quelle est la personne la plus vertueuse parmi ceux qui se présentent, je réponds, il n'y en a pas. Ils sont toutes pourries. Bon. Et quand ils me demandent, alors quelle est la moins pourrie? Je dirais, je ne sais pas, parce qu'ils sont tous aussi pourris les uns que les autres. Il me semble qu'il y a, je sais que j'ai choqué certaines personnes, mais c'est exactement ce que je pense. Je pense que la personne la plus pourrie moralement qui se présente aux élections, là, dernièrement, moi je dirais, c'est les gens qui ont plus reçu en famille. Il est évident, quand on voit le panneau électoral, si vous voyez toutes ces personnes qui se présentent, qu'il y a une personne qui a plus reçu que les autres, et c'est Marine Le Pen. Parce que Marine Le Pen a reçu une éducation catholique, si mes renseignements sont exacts. Elle a été formée comme jeune fille à l'école Saint-Pilice à Saint-Cloud. À l'époque, c'était le père Arène qui était aumônier. Et je ne dis pas que les dominicains de Saint-Cloud sont très fermes sous la foi, hein, pas du tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais enfin, il y avait quand même une certaine tradition dans l'éducation qu'elle devait donner, surtout à l'époque, à leur fille. Donc, Marine Le Pen a reçu une éducation vraisemblablement catholique, plus ou moins. Au moins, elle a été baptisée, elle a reçu certaines choses. Et donc, parce qu'elle a reçu plus, elle doit donner plus. Donc, s'il y avait deux personnes qui sont tombées dans la turpitude morale, une personne qui a jamais rien reçu en famille, une personne qui a beaucoup reçu en famille, la personne qui a beaucoup plus reçu en famille et qui tombe dans la turpitude morale est beaucoup plus responsable que la personne qui a rien reçu du tout. Donc, la personne pour moi la plus pourrie de tout le panel électoral, pour moi, c'est Marine Le Pen, parce que justement, elle avait plus reçu. Et c'est pour ça que je refuse catégoriquement de rentrer dans le système. Justement, parce que je ne peux pas, en conscience devant Dieu, voter pour des gens qui n'acceptent même pas la loi naturelle. On voit très bien dans le nouveau Rassemblement National que Marine Le Pen est pour l'avortement, elle ne croit plus du tout aux lois naturelles concernant le mariage, concernant l'éducation des enfants, etc. Elle est entourée de pervers sur le plan moral. Et elle est beaucoup plus responsable que les autres. Donc attention, donc de faire attention, ne pas tomber justement dans cette hypocrisie qui consiste à juger les gens sur ce qu'ils disent. Il faut juger les gens sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont. Hein? C'est une petite parenthèse, mais je pense qu'elle était nécessaire. Hein? Alors les gens vont me dire, mais Monsieur l'abbé, vous êtes contre la République, je ne suis pas en tant que tel contre la République, je suis contre le laïcisme de la République française. Parce que qui dit laïcisme dit refus catégorique du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne peux pas voter pour quelqu'un qui est contre le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. On me dit, mais vous êtes contre la démocratie. Je suis contre la démocratie dans la mesure où la démocratie c'est le pouvoir du nombre et que donc la démocratie suit le subjectivisme en disant que la vérité n'existe pas et que c'est le nombre qui va déterminer où est la vérité. Ça c'est inadmissible pour un catholique et jamais je suivrai des principes pareils. Fin de la parenthèse. Alors donc, reprenons le texte des Pères de l'Église, page 18. « Quiconque transgresse la loi mérite un blâme, mais encore plus celui qui a la responsabilité d'instruire les autres, parce qu'il est un transgresseur, parce qu'il doit faire avancer les autres, mais qu'il s'arrête lui-même, parce qu'étant élevé au rang de maître, son influence est plus corruptrice. Plus on a reçu, plus il faut donner. Hein? Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas, mais quelqu'un qui a plus reçu doit donner plus que quelqu'un qui n'a pas reçu. » Donc quelqu'un qui est élevé au rang de maître parce qu'il a plus reçu et qui refuse de remplir ses responsabilités a une influence beaucoup plus corruptrice que quelqu'un qui n'a pas été élevé au rang de maître. C'est pour ça que je pense qu'un politicien qui a reçu beaucoup plus sur le plan spirituel, qui a reçu une véritable éducation catholique, qui connaît son catéchisme, qui a été baptisé, qui a reçu les sacrements au moins pendant un certain temps, est beaucoup plus responsable que quelqu'un qui n'a jamais rien reçu. Qu'est-ce que vous voulez, quand vous comparez, encore une fois, une personne qui a reçu un minimum d'éducation catholique en famille, qui a reçu le sacrement de baptême, etc., qui a été dans une école quand même plus ou moins catholique pendant un certain temps, est beaucoup plus responsable qu'un quelqu'un qui vient d'un milieu complètement communiste, complètement parpaillot, complètement athée, qui n'a jamais rien su, qui n'a jamais entendu parler la moindre formule des catéchistes, qui ne connaît rien sur la foi catholique. Eh bien, la personne qui est catholique est beaucoup plus responsable. Pourquoi ? Parce que plus on tombe de haut, plus on se fait mal. Donc, quelqu'un qui a beaucoup reçu est plus responsable que quelqu'un qui a moins reçu. Donc, quelqu'un qui a beaucoup reçu et qui est tombé, finalement, tombe mathématiquement beaucoup plus bas par rapport à son point de départ que quelqu'un qui a beaucoup moins reçu. Si quelqu'un qui est à 100 mètres de hauteur tombe au niveau du sol à zéro, il va faire une chute de 100 mètres. Mais si quelqu'un n'avait reçu que 20 mètres d'éducation naturelle et qu'il tombe au niveau du sol, lui tombe que de 20 mètres. Donc celui qui tombe de 100 mètres se fait bien plus mal que celui qui tombe de 20 mètres. C'est du bon sens élémentaire. Soyez, disent les pères, stricts en ordonnant votre propre vie, mais indulgents avec les autres. Que les hommes vous entendent peu commander, mais qui vous voient beaucoup agir. C'est Saint Jacques, je crois, qui dit « Soyez promptes à écouter et beaucoup plus lents à parler et à vous mettre en colère. » Pensons à, justement à tourner 10 fois notre langue dans notre bouche avant de dire quelque chose, surtout si nous avons des responsabilités. Donc soyons stricts en ordonnant notre propre vie, mais indulgents avec les autres. Soyez exigeants avec vous-même, et parfois moins exigeant avec les autres. Ou avant, plus exactement, avant d'être exigeant avec les autres, commencez par être exigeant avec vous-même. Un père de famille, par exemple, se doit d'avoir une exigence personnelle de vie pour pouvoir éduquer ses enfants. Comment voulez-vous qu'un enfant suive l'exemple de son papa si, justement, ce papa ne donne pas le bon exemple? Vous connaissez cette histoire, j'étais témoin moi-même une fois, d'un papa qui vient de faire un grand sermon à son petit garçon de 5 ans parce que le petit garçon vient de dire un mensonge à sa maman, donc il attrape son enfant avec raison. Et puis à ce moment-là, le téléphone sonne, et puis le père, avant que sa femme décroche, dit devant son enfant, « Si c'est un tel, dis-lui que je suis pas là. » Ben, le gamin de 5 ans, il a bondi en disant ben, tu me dis qu'il faut pas que je mente et toi tu mens. Le gamin, il avait un peu raison, parce que le papa ne fait pas attention à ce qu'il disait. Il faut donner le bon exemple aux enfants. Donc que les hommes vous entendent peu commander, mais qu'ils vous voient beaucoup agir. Le prêtre qui s'autorise beaucoup, mais qui exige beaucoup plus que les autres, est comme un collecteur de taxes corrompu qui, pour sa propre utilité, taxe lourdement les autres. On le voit très bien chez les saints prêtres, regardez ces saints curés d'Ars, il avait une exigence morale pour lui-même absolument incroyable, et par contre, il était au niveau pénitentiel, par exemple, beaucoup moins sévère pour les autres. Un exemple qui est donné par dans sa vie, d'un gros pêcheur qui va se confesser au saint curé d'Ars et qui est étonné que le saint curé d'Ars lui donne une pénitence relativement bénigne à faire. Alors il lui fait la remarque, il dit, mais mon père, après tout ce que j'ai fait, c'est tout ce que vous me donnez comme pénitence? Et le saint curé d'Ars a répondu, le reste, je m'en occupe moi-même. Eh bien, c'est exactement ça. Pensons à donner l'exemple à nos enfants de la vertu de l'esprit de pénitence, commençant par pratiquer nous-mêmes ce que nous voulons voir pratiquer chez nos enfants. Ceci est très important, surtout chez les adolescents qui copient très facilement, qui sont très influençables et qui copient très facilement leur entourage. Si une maman veut que sa fille s'habille correctement, la première chose qu'elle a à faire, c'est de s'habiller elle-même très correctement. À ce moment-là, petit à petit, par osmose, je dirais, la jeune fille va comprendre certaines choses, même si elle a mis un certain temps pour le comprendre. C'est pareil pour les papas qui doivent donner aux enfants, surtout aux garçons, l'exemple du travail bien fait, par exemple, du travail physique bien fait, parce que justement, les enfants peuvent voir leur papa agir et comprendre l'importance de cet exemple. Le Christ enseigne ici que tous les autres dogmes des scribes, tant qu'ils ne répugnent pas à la loi, même s'ils sont vains et superficiels, qu'ils n'obligent pas en conscience, comme les fréquents lavements des mains et des autres parties du cœur, peuvent encore servir au mérite de l'obéissance simple et aveugle par révérence envers l'ordre sacerdotal. On obéit à nos supérieurs tant que l'ordre n'est pas directement opposé à la conscience ou à la loi naturelle ou à la loi divine. Pourquoi ? Parce qu'il faut... Pour qu'une loi soit obligatoire, il faut qu'elle commande quelque chose d'honnête et d'utile. On peut retourner voir la doctrine traditionnelle de l'Église qui se rencontre sur ce sujet dans Saint Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique, c'était la prima secondae, première partie et deuxième partie, question 95, article 3, donc qui explique justement qu'une loi n'est obligatoire que si elle commande quelque chose d'honnête et d'utile. Voilà ce qu'il dit. Donc il se pose la question de savoir quelles sont les qualités d'une loi, de la loi humaine. Donc, en décrivant les caractéristiques de la loi, il pose trois éléments, suivant un grand saint qui s'appelle Saint Isidore. Première condition, que la loi soit en harmonie avec la religion, en ce sens qu'elle soit conforme à la loi divine. Deuxièmement, qu'elle s'accorde avec la discipline des mœurs, en ce sens qu'elle soit conforme à la loi de nature. Et enfin, qu'elle favorise le salut public, en ce sens qu'elle soit adaptée à l'utilité des hommes. Donc, pour qu'on puisse être obligé, conscient, de suivre une loi, il faut qu'elle soit conforme à la loi divine, conforme à la loi naturelle, et conforme et nécessaire à l'utilité des hommes. Donc, si une loi commande quelque chose de déshonnête ou d'inutile, elle n'oblige plus en conscience. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Autre citation, cette fois-ci de saint Jean Chrysostome. Le Christ montre que ces scribes, dont parle l'Évangile, sont coupables d'une double malice, à la fois parce qu'ils obligent la multitude à vivre de la manière la plus stricte possible, sans la moindre indulgence, mais aussi parce qu'étant fort indulgents avec eux-mêmes, ils vivent dans une grande licence. On exige au contraire d'un bon prince qu'il ne soit pas indulgent avec lui-même, mais doux à l'égard de ses sujets et prêt à pardonner. Et les fidèles se rendent très bien compte de ces choses-là. Je me rappelle le fidèle qui me parlait de deux prêtres qui étaient dans un même prieuré et qui me disait le premier prêtre, il est extrêmement exigeant avec lui-même et très peu exigeant avec ses fidèles. Il était très écouté. Au contraire, le deuxième prêtre était très exigeant avec ses fidèles, mais pas du tout exigeant avec lui-même. Et ce deuxième prêtre n'était pas du tout écouté dans la paroisse parce qu'il ne donnait pas le bon exemple. Ouais. Voyons, avançons maintenant dans ce chapitre 23, versets 5 à 12. Donc, saint Matthieu, chapitre 23, versets 5 à 12. Donc, les scribes et les pharisiens font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est pourquoi ils portent de larges phylactères et de longues franges. Ils aiment les premières places dans les festins, les premières chaires dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés rabbi par les hommes. Mais vous, ne vous faites point appeler rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Et ne donnez à personne sur la terre le nom de père, car vous n'avez qu'un seul père qui est dans les cieux. Mais qu'on ne vous appelle point maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Donc celui qui est le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera humilié, quiconque s'humiliera sera élevé. Page 19 du Palicopie, note des pères. Qui disent enlever ce péché de vanité du clergé, on n'aurait plus besoin de les réformer, car c'est ce péché qui empêche le prêtre de faire pénitence. Parce que trop de prêtres, justement, disent les pères, c'est vrai de leur temps, c'est sans doute aussi vrai d'aujourd'hui, beaucoup de prêtres qui se prétendaient disciples de Christ aimaient en vérité les places les plus élevées, mais au banquet spirituel, où il peut se nourrir à partir des meilleurs morceaux de nourriture spirituelle. Donc on peut aimer les places élevées, spirituellement parlant, mais garder l'humilité ici-bas sur la terre. Les apôtres étaient assis sur 12 trônes, donc ils cherchent à les imiter par ses bonnes œuvres, pour se rendre dignes de ces trônes. Ils recherchent également les salutations faites sur la céleste place du marché parmi les congrégations du ciel. Donc avoir un grand désir d'aller au paradis, être tout proche du bon Dieu au paradis, ça c'est une très bonne chose, mais garder l'humilité ici-bas sur la terre. Donc le verset 9 doit être expliqué. Ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux. Souvent les protestants nous font ce reproche de ce verset en disant vous faites appeler Monsieur l'Abbé ou mon Père, et ça s'oppose à ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas du tout dans le même sens. Le prêtre est par essence même père. Père de ses enfants spirituels, et ses enfants spirituels doivent le reconnaître justement comme étant très proche d'eux spirituellement parlant. Donc sinon il faudrait dire la même chose, il faudrait appliquer aussi ce verset, si les protestants avaient raison, au père de famille qui se fait appeler papa par ses propres enfants. C'est évident que c'est pas ce que veut dire notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut se rappeler simplement avec notre Seigneur Jésus-Christ que toute autorité vient de Dieu et que l'autorité que nous avons ici-bas n'est qu'une participation à l'autorité divine. Donc il faut se maintenir dans la vertu d'humilité, parce que sans le bon Dieu, on peut rien faire. Ne vous faites donc pas appeler rabbi, mais soyez-en un, non par le corps, mais par le cœur. Le Christ n'interdit pas les degrés de docteur, mais l'orgueilleuse ambition du titre qui va le pousser à mépriser les autres, comme s'il avait cette connaissance de lui-même, et non par le Christ, comme le pensaient les scribes. Donc avoir cette humilité qui est absolument nécessaire. On voit très bien comment l'humilité ouvre le cœur. Moi, je l'ai vu, de mes yeux vus, avec surtout Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre, avec cette extraordinaire humilité et simplicité qui m'a estomaqué quand j'étais au Mexique, au sud du Mexique. J'ai vu comment Mgr Lefebvre avait ce don pour être parfaitement à l'aise dans tous les milieux. Et de mettre les gens à l'aise dans tous les milieux. Il arrivait à être parfaitement à l'aise avec des braves paysans du sud du Mexique, dans l'état de Oaxaca, qui savaient ni lire ni écrire. Il était parfaitement à l'aise avec eux. Il se mettait à l'aise, mais sans devenir vulgaire. Sans devenir, si vous voulez, sans vouloir les imiter de façon stupide. Il gardait sa dignité. Il était évêque. Il était extraordinairement évêque, même devant un paysan tout simple. Mais quelques heures plus tard, il se retrouvait à New York, après 2 heures d'avion ou 3 heures d'avion, il se retrouvait à New York en train de donner une conférence intellectuellement très élevée à une bande de gens, à un certain nombre de gens qui, eux, avaient reçu une certaine éducation, si vous voulez, intellectuelle et doctrinale. Eh bien, il était aussi parfaitement à l'aise dans les deux cas. Je pense que c'est important pour un prêtre. C'est pas facile d'arriver à être à l'aise avec tous les milieux. Cependant, Mgr Lefebvre nous disait avec raison au séminaire qu'on doit faire un effort pour essayer d'être à l'aise dans tous les milieux. Cependant, on sera vraiment à l'aise que dans son milieu d'où on vient. Je pense qu'il avait parfaitement raison. Avançons, page 19. Verset 13 du chapitre 23 de Saint Matthieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux devant les hommes, car vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui désirent entrer. Faites attention que ce reproche ne soit pas appliqué. Souvent, on l'entend de la part des gens qui connaissent mal les prêtres. Vous êtes des pharisiens, vous, les prêtres. Vous exigez, mais vous donnez pas grand-chose. C'est vrai que la meilleure façon de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ et ouvrir les âmes qui sont en face de nous, c'est justement de donner l'exemple de la vertu d'humilité. La vertu d'humilité est certainement la vertu qui nous fait le plus aimer notre Seigneur, alors qu'au contraire, et imiter notre Seigneur, qu'au contraire, le défaut, le péché d'orgueil est le péché qui nous fait le plus imiter le démon. Et donc, si les hommes voient en nous cette humilité, ils auront beaucoup plus de facilité à ouvrir leur cœur au travail spirituel fait par ce prêtre. Une fois, ça je l'ai vu plusieurs fois avec Mgr Lefebvre qui avait cette extraordinaire humilité, mais sans perdre une seule fois sa dignité. Mgr Lefebvre ne pouvait pas supporter la politesse, par exemple, la saleté, la vulgarité. Mgr pouvait pas supporter la vulgarité au séminaire. Il avait raison. Donc il savait se mettre au niveau des gens, mais tout en se faisant respecter comme évêque. Il était prince de l'Église. Le vrai prince de l'Église, c'est celui justement qui est capable de se mettre à tous les niveaux, mais étant sauf, bien entendu, la foi, les mœurs et toute la doctrine de l'Église. Donc voilà, voyons quelques exemples de ce commentaire des pères de l'Église sur ce verset 13 du chapitre 23 de Saint Matthieu. Le royaume des cieux est la béatitude du ciel et la porte en est le Christ par lequel les hommes peuvent y entrer. Notre Seigneur Jésus-Christ est la porte. Il se dit dans l'évangile, il est la lumière du monde, il est le sel de la terre, il est aussi la porte de la bergerie. Et les brebis doivent rentrer par la porte utilisée par le maître, par le berger. Alors qu'au contraire, le loup cherche à rentrer de nuit, non pas par la porte qui est bien protégée, mais par la fenêtre qui est laissée entrouverte. Les portiers, donc, eux, sont les prêtres à qui est confiée la fonction d'enseigner et d'interpréter l'Écriture sainte qui vont ouvrir la porte de la vérité aux hommes. Donc, les prêtres doivent faire très attention justement de garder cette porte bien ouverte pour que tous ceux qui cherchent le vrai puissent rentrer dans l'Église. Bien entendu, il faut savoir fermer la porte quand il y a en face de nous des gens qui ne veulent rentrer dans l'église que pour la détruire de l'intérieur. Attention à ça. Donc les portiers sont les prêtres. Un des rôles des prêtres, c'est d'être à la porte de l'église et d'ouvrir à ceux qui cherchent vraiment la vérité. Pour ouvrir la porte de la vérité aux hommes. Donc l'ouverture de cette porte, qui fait allusion à cette phrase de saint Matthieu, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez le royaume des cieux. » Le royaume des cieux, l'ouverture de cette porte, représente la bonne interprétation. Malheur aux scribes, non pas parce qu'ils ouvrent la porte, mais parce qu'ils la ferment, au lieu de l'ouvrir, pour que les gens puissent rentrer dans l'église et découvrir tous les trésors de la grâce. Citation de saint Jean Chrysostome, le royaume des cieux, c'est la sainte écriture. Les portes, la compréhension de l'écriture ou le Christ, les porteurs de clés sont les scribes et les prêtres. La clé est la parole de la connaissance et l'ouverture de la porte, l'interprétation. Vous voyez comme il est important que ce soit le bon Dieu lui-même qui ouvre la porte. Et dans certaines conditions d'apostolat, il faut que le prêtre justement se tienne un petit peu en retrait. Et avant d'ouvrir la porte de son âme à cette personne qui lui parle, il faut être sûr que cette personne cherche Dieu. Parfois, il faut attendre. Et par leur mauvais exemple, les scribes et les pharisiens poussent les juifs loin du Christ, de la voie qui mène au ciel. Le Christ seul est la porte du ciel. Est-ce que je suis une porte? Est-ce que les gens qui me voient puissent voir derrière la porte extérieure de mon âme, puissent voir le bon Dieu qui resplendit dans mon âme? Anthropologiquement parlant, c'est moralement parlant, il ferme le royaume des cieux, ce qui excommunie quelqu'un sans cause. C'est le rôle du docteur de rappeler ceux qui errent, mais s'il les mène vers l'erreur, il devient un fils de perdition, une pestilence lui-même. Un tel docteur mérite l'enfer autant de fois qu'une âme est corrompue par lui, car il n'est plus un maître et l'instrument du salut, mais un traître. Avançons dans ce chapitre 23, verset 14 de saint Matthieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, reprend la même phrase, parce que vous dévorez les maisons des veuves en faisant de longues prières. C'est pourquoi vous recevrez un jugement plus rigoureux. Tout Seigneur Jésus-Christ va s'attaquer de nouveau à l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Les prétendants à la sainteté agissent surtout, un petit conseil important des pères de l'Église, les prétendants à la sainteté agissent surtout sur les femmes qui ne peuvent voir leur hypocrisie et sont poussées à les aimer à cause de leur religion. Leur gibier préféré sont les veuves, car une femme mariée à son mari pour la conseiller ne sera donc pas si facilement trompée. De plus, elle ne peut leur donner de l'argent car elles sont sous le pouvoir de leur mari. La meilleure protection d'une épouse, c'est évidemment son mari. Bon, c'est évident que si elle devient veuve, qu'elle perd son mari, eh bien le bon Dieu va donner les grâces complémentaires pour que l'épouse puisse remplir son devoir d'État. Verset 15 du chapitre 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Reprend la même façon de parler. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et qu'après qu'il est devenu, vous faites de lui un fils de la géhenne, deux fois pire que vous. Donc, qu'est-ce que veut dire cette expression? Vous, scribes et pharisiens, vous parcourez la mer et la terre. Cela signifie qu'ils seront dans le monde entier des ennemis de l'évangile du Christ, amenant les hommes sous le joug de la loi contre la justification de la foi. Un disciple imite son maître vertueux, mais dépassera en malice celui qui est vicieux. Quand on met le petit bout du doigt dans la bouche du démon, le démon attrape tout. Si au contraire, on se protège, à ce moment-là, on est sous la protection du bon Dieu, littéralement. Finissons par ce dernière note des Pères de l'Église, page 20, en haut de la page 20. Le prosélyte est un païen. C'est un païen converti au judaïsme et qui s'attachait donc à l'Église et à la religion juive à la fois. Les chrétiens les appellent néophytes. Beaucoup de prosélytes, en voyant vos mauvaises actions, retournent vers l'athéisme. Et celui qui retombe ainsi commet un péché plus grave, qui est un double péché. Donc ici, les pères de l'Église nous mettent en garde contre ces prosélytes de la porte. C'est des gens qui se prétendaient catholiques, mais qui en fait compte restaient dans le cœur juif. C'est un peu des maranes avant l'époque. Maran, c'est ça, c'est quelqu'un qui se prétend de la religion juive, converti au catholicisme, et qui en fait a gardé dans son cœur l'amour de la religion juive. Alors, nous avançons un peu plus la prochaine fois. Donc, nous en sommes à la page 20, chapitre 23 de Saint Matthieu, au verset numéro 16. Donc, nous allons terminer avec une petite prière. Donc, je rappelle aussi ce que j'ai déjà rappelé dans d'autres cours, que j'ai encore de la place pour les retraites, les deux dernières retraites de l'année, au mois de septembre et au mois d'octobre. Donc, j'ai une retraite du 23 au 28 septembre et une retraite du 14 au 19 octobre. J'ai encore deux ou trois places pour chacune de ces retraites. J'espère bien pouvoir remplir les retraites. Bon, j'ai un gîte magnifique que j'ai trouvé pour prêcher les exercices saturniens. J'ai 5 chambres, donc je peux prendre, selon les cas, 5 ou 6 personnes. Donc, j'espère bien remplir ces retraites. Donc, si vous pensez pouvoir venir suivre une de ces retraites, pensez à me dire le plus vite possible par téléphone, 06 32 01 65 16. Nous finissons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.